Europe 1. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, a annoncé que 100 millions d'euros seront investis chaque année dans les soins palliatifs jusqu'en 2034. Cela fait plus d'un milliard supplémentaire et c'est le deuxième volet du projet de loi sur la fin de vie qui doit autoriser, je le rappelle, le suicide assisté et l'euthanasie sous condition, même si ces mots ne sont pas utilisés par le gouvernement. Professeur Emmanuel Hirsch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'éthique médicale à l'Université Paris-Saclay. Vous êtes l'auteur de « Soigner par la mort, est-il encore un soin ?» aux éditions du CERF. Catherine Vautrin a déclaré que quand quelqu'un demandera une aide à mourir, la première chose qu'on lui proposera, ce seront les soins palliatifs. Est-ce que cela vous rassure ?
D'abord, je n'ai pas besoin d'être rassuré. Je vais être rassuré probablement par les parlementaires qui vont se pencher sur ce projet de loi. Ce qui m'a rassuré ces jours-ci, c'est l'avis du Conseil d'État sur ce projet de loi. Le Conseil d'État s'était prononcé à deux reprises. En 2018, le 28 juin 2018, et puis le 4 avril dernier, il disait en 2018 qu'il ne voyait pas vraiment d'intérêt à ce qu'il y ait une évolution législative. Deuxième point, qu'une législation dans ce domaine touchant à des situations singulières, c'était quand même très délicat à mettre en œuvre. Ça, c'était la première partie. Et puis, ce qui est plus proche de la réalité d'aujourd'hui, il dit que le gouvernement est en droit, effectivement, de faire évoluer la législation de 2016, avec néanmoins des précisions à apporter. Et on ne voit pas dans l'intitulé actuel de la loi, qui est « Accompagnant la personne et fin de vie », qu'il y a à la fois les soins palliatifs. Donc, si on suit le Conseil d'État dans sa préconisation, la loi devrait s'appeler « Loi relative aux soins palliatifs ». Et à l'aide, alors on ne dira pas à l'aide à mourir, mais à l'aide active à l'euthanasie et au suicide assisté. Donc ce qui est important quand Catherine Vautrin et toutes les personnes aujourd'hui, y compris les personnes de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, sont tous favorables à ce que tout citoyen, toute citoyenne ait accès aux soins palliatifs aujourd'hui.
Ce qui n'était pas le cas en France,
ce qui n'est toujours pas d'ailleurs. C'est toujours, la première loi, c'est 9 juin 1999. Effectivement, depuis, on aurait pu mettre en place les soins palliatifs. Alors, première question, est-ce qu'on a besoin de soins palliatifs partout ? On a surtout besoin d'une culture, de l'accompagnement, peut-être que davantage de structures et de lits. D'autre part, nous fixer comme objectif 10 ans, hein, puisque le plan se développe sur 10 ans, ça voulait dire on attendra dans 10 ans, c'est-à-dire que tout le monde puisse accéder aux soins palliatifs pour que la loi, la nouvelle loi, soit effective avec un accès au suicide assisté et à l'euthanasie. Donc je pense qu'il est très intéressant de rendre hommage aux soins palliatifs, de leur permettre d'être reconnus. Mais ce qui est aujourd'hui très très délicat dans l'approche du gouvernement, c'est de confondre, c'est ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, l'accompagnement par les soins palliatifs, c'est-à-dire accompagnement de la personne en relation, accompagnement avec une qualité de vie, un projet de vie jusqu'au terme de l'existence. Et puis une autre option, c'est suicide assisté ou euthanasie, c'est-à-dire abréger une existence. Et là se pose pour les professionnels, il n'y a pas que des professionnels dans les soins palliatifs, il y a aussi beaucoup d'associations, se pose la question, est-ce que c'est vraiment la fonction du médecin d'aller d'un côté sur les soins palliatifs et de l'autre côté sur le suicide assisté et l'euthanasie. Et c'était d'ailleurs ce que le Conseil d'État aussi observait en 2018. C'est une espèce de confusion. Et autant je suis favorable à une approche d'exception, c'est-à-dire qu'effectivement, certaines situations peut-être ne sont pas aujourd'hui appréhendées comme il conviendrait de le faire dans la loi de 2016.
Mais donc, ça conviendrait qu'il y ait une aide médicale à mourir dans ces exceptions ?
Non, pour ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas mettre sous la table le mot suicide assisté et euthanasie. Toutes les législations qui nous ont précédés, hein, puisqu'on se réfère au moins, disent explicitement les choses. Donc je pense qu'il faut aller franchement. Si effectivement, et beaucoup d'ailleurs, non pas en termes de tribune, mais sur le terrain s'expriment, certains médecins disent aller jusqu'au bout du soin, accompagner une personne jusqu'au terme de son existence, c'est pratiquer l'acte létal lorsqu'il n'y a plus rien d'autre à faire, ou lorsqu'on sent que dans notre intime conviction, c'est l'engagement qu'on doit avoir pour cette personne. Pour moi, j'arrive à le comprendre, j'arrive à l'admettre, c'est une affaire au cas par cas. Est-ce qu'il faut légiférer sur cette question ? Alors ceux qui disent qu'il faut légiférer, ils disent que ça se pratique d'une manière clandestine. Mais soyons rassurés, dans les pays qui ont légiféré, ça se pratique encore d'une manière clandestine. Donc la vraie question, c'est maintenant les parlementaires qui vont la prendre en compte, c'est quel type de critères on va mettre en place pour limiter ce dont on sait qu'à terme ça ne sera pas limitatif, et de quelle manière un médecin considérera, donc c'est toute la question de la déontologie médicale, que l'œuvre du médecin, aller jusqu'au bout du soin, et c'est là où moi je mets une petite frontière dans la définition du soin, c'est également aider la personne à mourir. Parce que ce n'est pas l'aide à mourir uniquement, l'accompagnement, c'est véritablement pratiquer un acte létal avec une intention, c'est que la personne meure. Et vous voyez, ce qui a été l'ambiguïté, c'était la loi du 2 février 2016, où on parlait de sédation profonde et continue jusqu'au décès. La personne mourait parce que physiologiquement, le corps ne résistait plus. Mais il n'y avait pas d'intention de donner la mort. Là, il y a une intentionnalité. Et rappelez-vous aussi d'une loi importante, c'est la loi Leonetti du 22 avril 2005, droit des malades et fin de vie. Jean Leonetti, dans ce loi, disait « Si pour limiter une souffrance, on limite la vie de la personne, sans l'intention de tuer la personne, on a le droit de le faire. » C'est pour dire que tout est sur la table. Ça fait maintenant 40 ans qu'on discute de ce sujet. On va avancer. Il faudra voir ensuite les conséquences. Tout ça pour répondre à votre première question. Si Catherine Vautrin avait été juste jusqu'au bout, elle aurait dit une fois qu'on aura effectivement accès d'un point de vue universel aux soins palliatifs, on légiférera. Ce n'est pas ce qui va se passer. Et donc il y a une période qui est à peu près 10 ans, puisque le plan décennal qui va être mis en œuvre est sur 10 ans. Et je ne pense pas que ce soit qu'une question d'argent. Un dernier point, parce que je sais que vous êtes sensible à ces questions. Je pense que ce n'est pas uniquement des réponses médicales dont on a besoin. C'est des réponses sociétales. Et le grand défi, c'est qu'on voit dans les pays qui ont légiféré, qui ont évolué dans leur législation, c'est-à-dire qui ont appliqué à d'autres cadres que ceux qui étaient au départ restrictifs, une personne très âgée, qui souffre de la solitude, qui souffre existentiellement, une personne atteinte de mélancolie, atteinte de troubles psychiques. Il y a tout un ensemble de personnes dont on se demandera à un moment donné, comme les législations qui nous ont précédées, mais au nom de quoi, si elles attendent de la société cette dernière compassion que de les aider à mourir, on ne le fera pas. Et avec une distinction entre le suicide, c'est un acte personnel, autonome, et l'euthanasie, qui est quelque chose de compliqué. Donc, vous voyez, on rentre dans un moment intéressant. Il y a eu une très très belle concertation, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, depuis que le président de la République a souhaité, le 13 septembre 2022, nous engager. Il y a eu une convention citoyenne, enfin, il y a eu du débat. On ne peut pas dire que le débat n'a pas eu lieu. Maintenant, il faudra que le Parlement se prononce aussi en conscience et que, à mon avis, les soins palliatifs ne soient pas assimilés à la même loi. En tous les cas, s'ils le sont, qui est vraiment dans l'intitulé soins palliatifs, c'est ce que dit le Conseil d'État, et puis assistance à mourir sous forme de suicide assisté ou d'euthanasie.
Mais Emmanuel Hirsch, justement, parce que ça s'est développé aux marges des pratiques médicales conventionnelles et que, on l'a dit, en France, les soins palliatifs n'ont jamais été très bien lotis. C'est quoi exactement les soins palliatifs ?
Les soins palliatifs, ils naissent en France dans les années 1980, d'ailleurs au même moment que le sida. Et ils naissent à un moment où beaucoup de médecins pratiquaient ce qu'on appelle la pose du cocktail lithique, c'est-à-dire sans le dire à la personne, quand une personne souffrait, on n'avait pas aussi toutes ces ressources au niveau des antalgiques, on posait le cocktail lithique. Donc il y avait quelque chose d'extrêmement provocateur. Et d'ailleurs, à cette époque, il y a aussi l'Association pour le droit de mourir dans la dignité qui dit « Regardez en réanimation ces survies indignes ». Donc il y a tout un ensemble d'éléments, de facteurs qui ont fait que naissent les soins palliatifs en France, selon le modèle anglo-saxon, ce qu'on appelle des hospices. Par exemple, en Angleterre, il y a 200 à 300 maisons qui accueille des personnes. Vous savez que dans la nouvelle loi, il y aura des lieux dédiés, des maisons d'accompagnement. Ça, c'est une innovation intéressante. Donc, entre le domicile, si on veut, et l'hôpital, on est dans des contextes très différents. Donc, les soins palliatifs, c'est l'engagement d'accompagner la personne jusqu'au terme de son existence en mobilisant des compétences, à la fois technique, pour que la personne ne souffre pas, avec éventuellement la sédation. La personne, on l'endort, mais une sédation proportionnée qui permet d'être réversible, donc de maintenir la relation. Et l'objectif, c'est de maintenir la qualité de vie de la personne, non pas d'une manière obstinée, mais le plus longtemps possible et en accord avec elle. Et il s'avère que la pratique des soins palliatifs fait que des personnes qui ne seraient peut-être pas survécu survivent peut-être plus longtemps parce qu'elles sont dans un environnement où leur destinée, ce n'est pas uniquement le moment de la mort, est-ce qu'on les prolonge ou pas. Elles vivent leur vie, mais encore une fois, d'une manière concertée. C'est ce qui a fait que les soins palliatifs se sont, dès le départ, opposés à l'approche de l'acte létal, en disant ils sont confrontés à des situations complexes, des situations d'une grande difficulté. On n'a pas à s'obstiner, mais on doit, au cas par cas, avoir l'approche la plus juste. Et c'est vrai que toutes les personnes n'ont pas non plus envie d'aller dans les soins palliatifs. Et quand on se représente à titre personnel ce que pourrait être le moment difficile pour soi ou pour un autre, peut-être qu'on pense que l'échappatoire au niveau de notre dignité, au niveau de notre liberté, au niveau de nos valeurs, c'est plutôt d'en terminer assez vite. Donc ce qui est intéressant au moment où on se parle, c'est en avril 2024, c'est que je pense qu'il n'y a plus d'opposition entre soins palliatifs et puis alternative aide à mourir. Uniquement, il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion dans une législation. Et juste un point qui m'a beaucoup frappé, dans les pays qui nous ont précédés, Au départ, on disait, parce qu'il y a une autre alternative, suicide assisté ou euthanasie. La plupart des pays qui ont mis suicide assisté ou euthanasie, c'est maintenant majoritairement euthanasie. Donc c'est finalement le dilemme, en tous les cas l'option, ça sera soit palliatif ou euthanasie.
Je renvoie à votre livre « Soigner par la mort, est-il encore un soin ?» C'est paru aux éditions du CERF. Merci Emmanuel Hirsch.
Merci Frédéric Tanné.
Et vous vous souvenez peut-être, il fut un temps où on s'amusait à comparer Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. On était soit pour Delon, soit pour Belmondo. Eh bien, un critique de cinéma, Samuel Blumenfeld, en a fait un livre.
Europe 1.